Au micro, Idriss Assidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. Le président français Emmanuel Macron sera le premier chef d'État étranger à se rendre ce jeudi à Beyrouth, où l'aide internationale a commencé à arriver après deux gigantesques explosions de tonnes de nitrate d'ammonium à l'abandon au port de Beyrouth. Explosions qui ont fait, bilan encore provisoire, au moins 113 morts, 4000 blessés et jusqu'à 300 000 personnes sans domicile. La capitale libanaise a été réduite à une ville en état d'urgence pendant deux semaines, en proie au chaos et confrontée à une situation apocalyptique. Plusieurs pays dont la France ont déjà dépêché des équipes de secouristes et du matériel pour faire face à l'urgence. La double explosion a été présentée comme accidentelle par les autorités. Elle a ravagé le port et une grande partie de la capitale. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a offert l'aide des États-Unis lors d'un entretien téléphonique hier avec le premier ministre libanais, Hassan Diab. Pour sa part, le président américain, Donald Trump, a admis hier que les gigantesques explosions à Beyrouth avaient pu être causées par un accident, sans toutefois revenir sur ses propos polémiques de la veille, selon lesquels ces explosions ressemblaient à une terrible attaque. La République démocratique du Congo a soutenu pleinement une position de la SADC opposée à une proposition des Nations Unies de reconfigurer une brigade spéciale sous-régionale intégrée à la force onusienne. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié hier à l'issue d'un sommet par visioconférence de sept chefs d'État, dont le président congolais Félix Tshisekedi. Cette brigade est autorisée à recourir à la force de manière offensive pour neutraliser les dizaines de groupes armés locaux et étrangers actifs dans l'est de la RDC. Et puis, plus de 1300 personnes ont été tuées au premier semestre 2020 par des groupes armés en République démocratique du Congo, trois fois plus que sur la même période en 2019, selon un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme publié mercredi. En Guinée, les délégués du parti RPG au pouvoir ont plaidé hier, au premier jour de leur convention électorale, pour que le président sortant, Alpha Condé, soit leur candidat lors de la présidentielle prévue d'ici à la fin de l'année, alors que l'opposition manifeste depuis des mois contre un éventuel troisième mandat du chef de l'État. En Mauritanie, la justice a annoncé hier avoir reçu un rapport d'une commission parlementaire sur la gestion de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir de 2008 à 2019 et va ouvrir une enquête. Ce dernier avait ignoré début juillet la convocation de cette commission créée en janvier pour faire la lumière sur plusieurs dossiers. Au Sénégal, la gendarmerie a arrêté six suspects après l'attaque lundi à Dakar du siège du quotidien Les Échos par des partisans présumés d'un guide religieux, Serigne Moustapha Sy. Il reprochait à sa rédaction d'avoir affirmé que M. Sy avait été contaminé par le coronavirus. Ils seront déférés ce jeudi au parquet de Dakar. Le gouvernement américain a annoncé mercredi un nouvel investissement d'$1 milliard dans le projet de vaccin contre le COVID-19 de la compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson, avec au moins 100 millions de doses garanties à la clé. Par ailleurs, Facebook a retiré hier de la page du président Donald Trump une vidéo qui, selon le réseau social, enfreignait ses règles sur la désinformation autour de la pandémie de COVID-19. Le président américain y affirmait que les enfants étaient presque totalement immunisés contre le virus. Twitter, pour sa part, a interdit hier au compte de campagne de M. Trump de continuer à tweeter tant qu'il ne retirait pas cette vidéo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idriss Assidoudia, restez à l'écoute. la suite de nos informations. En Guinée, les regards sont tournés vers la convention du RPG arc-en-ciel. Le parti du président Alpha Condé doit désigner son candidat en vue de la prochaine élection présidentielle prévue le 18 octobre. À cause de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 7000 cas d'infection, le dépistage est obligatoire pendant les parties. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Une première journée et des chiffres. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 15 personnes ont été testées positives au coronavirus sur 300 échantillons. Mais même le Covid-19 ne semble pas ralentir le RPG arc-en-ciel dans sa course vers la désignation de son candidat à la prochaine élection présidentielle. Le ton a été donné lundi par la coalition démocratique pour le changement dans la continuité. Ses membres, dont certains représentant le parti allié, ont sollicité le président Condé pour être l'unique candidat à la présidentielle du 18 octobre. Mardi, les députés de la majorité parlementaire ont fait une déclaration dans laquelle ils ont porté leur choix sur le président guinéen. L'ouverture de la convention a été marquée par le discours du Premier ministre guinéen. Kassouri Fofana a défendu la gouvernance actuelle et a annoncé que la Guinée ne compte aucun prisonnier politique ou d'opinion. La réponse du président guinéen est attendue demain à la clôture de la convention du parti au pouvoir. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
À Dakar, les milliers de Libanais d'origine sont sous le coup de la tragédie qui a frappé Beyrouth. Depuis le centre-ville de Dakar, ils partagent la peine de leurs compatriotes qui sont victimes de cette terrible catastrophe. Réaction recueillie par notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Je m'appelle Radouane Slour, je suis Libanais d'origine, résident à Dakar. On l'a vécu très mal, c'est une catastrophe humaine. Bien avant que je sois Libanais ou pas, on a vu des morts, des blessés, des humains qui n'ont rien à voir dans tout ça. Ils ont perdu leur vie, leurs proches, leurs biens. Et on a été touchés, vraiment, on a été touchés profondément.
Moi, je m'appelle Adnan Badawi. Bon, on me surnomme Aldo, quoi. Écoutez, ça fait très mal. Bon, mais qu'est-ce que quand un truc arrive, on n'y peut rien, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment dangereux. C'est... Bon, évidemment, j'ai pitié d'eux parce que déjà, ils passent une période très dure avec la crise économique au Liban et avec la maladie qu'on a, le Covid. Et maintenant, cette troisième truc est tombée au Liban et vraiment, j'ai pitié d'eux et ça me fait mal au cœur.
Je m'appelle Hussein Daher, ça fait 15 ans que je suis à Dakar. C'est un deuxième pays ici, mais ça fait trop mal vraiment pour le peuple libanais. C'est un peuple qui mérite la belle vie, c'est un peuple qui est gentil, mais malheureusement, notre pays, il n'y a pas la paix, malheureusement. Je demande pour tous les pays du monde, le gouvernement, pour aider Liban.
La pandémie a porté hier un nouveau coup à la campagne présidentielle aux États-Unis. Joe Biden a renoncé à se rendre en personne à la convention démocrate, tandis que Donald Trump envisage d'endosser les couleurs républicaines depuis la Maison-Blanche. Le point avec Abdourahmane Dia.
Traditionnellement, les conventions donnent le coup d'envoi en grande pompe de la campagne. Les délégués des partis désignent officiellement leurs candidats qui, dans des discours hyper médiatisés, acceptent le rôle et déroulent les grandes lignes de leur programme. Cette année, avec le coronavirus qui a fait plus de 155 000 morts, ces rencontres ont été revues à la baisse. Côté démocrate, les organisateurs de leur convention prévue du 17 au 20 août à Milwaukee, dans le Wisconsin, ont annoncé que les intervenants, y compris Joe Biden, n'iront pas pour des raisons de santé publique. L'ancien vice-président âgé de 77 ans prononcera son discours de nomination depuis l'État du Delaware où il habite. Chez les Républicains, Donald Trump, qui avait déjà dû annuler la convention de Jacksonville en Floride, a annoncé qu'il envisageait de prononcer son discours de nomination depuis la Maison-Blanche, mais précise n'avoir pas pris encore de décision.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La commission namibienne de la concurrence a bloqué la vente des parts de la société allemande Schwenk dans Orongo Cement que West China veut acquérir à 870 millions de dollars. Le régulateur craint que cette acquisition ne conduise à une concurrence déloyale sur le marché local, car West China détient déjà une participation majoritaire dans une autre cimenterie. Les parts de Schwenk dans Orongo, la plus grande cimenterie de la Namibie, que la société chinoise veut acheter, s'élèvent à 69,8%. L'Égypte et le Soudan demandent la suspension des négociations en cours sur la construction d'un méga-barrage par Addis Abeba sur le Nil. Les deux pays exigent d'abord des consultations internes sur la proposition éthiopienne qui, selon eux, viole la décision prise lors du sommet de l'Union africaine le 21 juillet. Le Soudan menace de se retirer des pourparlers, jugeant inacceptable la volonté de l'Éthiopie de lier les discussions à une renégociation d'un accord sur le partage des eaux du Nil bleu. Pour terminer, environ 55% des compagnies aériennes envisagent des réductions d'effectifs dans les 12 mois à venir en raison d'une reprise du trafic aérien freiné par les incertitudes liées au Covid-19, selon l'Association internationale du transport aérien. 45% des dirigeants des compagnies aériennes ont déjà réduit leurs effectifs en raison du trafic devenu trop faible. Environ 57% des dirigeants s'attendent à un recul et pensent que les prix des billets pourraient baisser en raison de la faible reprise de la demande.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La Fédération malienne du football a offert des kits de prévention sanitaire et d'équipements sportifs à une cinquantaine de clubs et de ligues régionales de football. Le matériel est composé de thermos flash, masques, kits de lavage des mains, savon liquide, gel hydroalcoolique et de ballon. Mamoutou Touré, président de la Fédération, a annoncé une aide financière. Les championnats de football doivent reprendre ce mois au Mali. Cher Ndoye a rendez-vous avec son ancien club Angers le 10 septembre devant les Prud'hommes. Le Sénégalais dénonce une promesse d'embauche non tenue, contestant la proposition de contrat de 2 ans du club non respecté après sa blessure. C'est à l'été 2018 que Ndoye est revenu à Angers après un prêt suivi d'un contrat de 2 ans. Mais en mars 2019, le joueur s'est blessé au ligament croisé en sélection et le club n'a plus donné de nouvelles. De son côté, le Togolais Michael Poté a quitté Erzurum Sport en Turquie pour Bandırma Spor pour une saison, club qui vient d'obtenir la montée en deuxième division. L'attaquant a marqué 9 buts en 30 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Aux Pays-Bas, plusieurs joueurs et membres du staff de l'Ajax Amsterdam ont été testés positifs au coronavirus en juin. La révélation a été faite par des tests réalisés à la mi-juin, selon le journal The Telegraph. D'après le quotidien, 13 personnes ont été contaminées, un chiffre qu'un porte-parole de l'Ajax n'a pas voulu confirmer. Mi-juin, 90 personnes, joueurs, membres du staff et du personnel de l'Ajax, ont été testées au Covid-19. Il n'a pas été précisé quand ni comment les personnes concernées ont été contaminées. Actuellement, personne à l'Ajax n'est infecté par le virus, a confirmé le porte-parole au Télégraphe. Cyclisme. Pour finir, le Sud-Africain Darryl Impé rejoindra pour les 2 prochaines années l'équipe Israël SN, dont le nouveau leader sera le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France. Chris m'a appelé et m'a dit qu'il avait confiance en moi et voulait que je sois à ses côtés, a déclaré Impé. Premier Africain à porter le maillot jaune du Tour en 2013, Impé, 35 ans, court dans l'équipe de Mitchelton depuis 2012. 2 fois vainqueur du Tour Down Under 2018 et 2019, Impé a enlevé l'an passé l'étape du Tour de France arrivant à Brioude.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 CU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidonia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le parti au pouvoir s'apprête à célébrer le 8 août le 4e anniversaire du 5e mandat consécutif du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans. Lors de son investiture le 8 août 2016, le président Déby avait promis aux femmes et aux jeunes des conditions propices à leur épanouissement. De l'avis de citoyens tchadiens, 4 ans après, le bilan est mitigé. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
La femme tchadienne, elle est valeureuse. Elle est responsable d'une dignité insoupçonnable. Donc, la promotion et la protection de tous les droits de la femme seront au centre de mes préoccupations.
Le président Idriss Déby Itno, à l'occasion de son investiture le 8 août 2016, il s'engage à construire une société harmonieuse où la femme ne sera pas considérée comme une citoyenne de seconde zone, mais aura sa place dans tous les segments de la société. Quatre ans après, Epainette Djimina Achil, députée du parti au pouvoir, dresse un bilan plutôt mitigé.
Nous, on est à presque 54% de la population dans la ville de N'Djamena. Nous avons 10 arrondissements. Et sur les 10, il y a au moins 3 femmes maires titulaires. Au niveau du gouvernement, on est à 24%. À l'Assemblée, 26%. Nous demandons au maréchal de faire encore plus. Pourquoi au Rwanda, ils sont à 75%. En France, ils sont à 60% à l'Assemblée. Et nous également, c'est ce qu'on souhaite. Je demande également aux femmes de se battre. Il faut qu'ils s'imposent aussi.
À l'endroit des jeunes, tout en mesurant pleinement leur angoisse et incertitude, Idriss Déby Itno se dit déterminé à apporter les réponses aux préoccupations des jeunes. Des fonds ont été mis en place pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes dans les différentes provinces du pays. Pour le président de l'Union des jeunes nationalistes, Louadoum Gardomti Blanchard, la promesse a été tenue à travers ces fonds qui contribuent à la réduction de la pauvreté et du banditisme en milieu jeune.
Ce chantier a mis au profit de la jeunesse tchadienne le fonds de 30 milliards qui a servi à la jeunesse de pouvoir se prendre en charge. En ce qui concerne l'emploi, il y a des pas également très positifs qui viennent d'être posés. Je voudrais justement parler de l'intégration des 2 millions à la fonction publique dont le recrutement est présentement en cours. Nous voudrions bien réaffirmer où il faut que la promesse a été tenue à l'endroit de la jeunesse italienne.
Le président national des jeunes patriotes, une autre organisation de jeunes, Mohamed Chali, donne un avis contraire.
Il y a eu des jeunes tchadiens qui sont sortis des écoles professionnelles. Pourquoi on n'intègre pas ces jeunes? Les jeunes aujourd'hui se constituent en groupe de pression. Donc ça impacte sur le résultat du mandat du chef de l'État. En ce qui concerne l'octroi de microcrédit, je ne sais pas, on donne à quel genre de catégorie de la jeunesse. Il y a des gens qui vont des activités à la sonnette, surtout ces jeunes qui vendent des essences. Cette jeunesse-là, on peut vraiment le récupérer et le transformer. Mais on prend de n'importe qui, on leur donne des crédits, il n'y aura pas d'impact.
Justement, les diplômés sans emploi estiment que cette promesse est une démagogie politique.
Ça fait déjà 7 ans que je suis en chômage. Le gouvernement a lancé un test de contractualisation des anciens. C'est depuis le 1er octobre qu'on a eu à signer le contrat. Ça fait déjà 11 mois aujourd'hui qu'on n'a pas eu un salaire.
Je suis un père éducateur. Et le président, dans sa promesse, avait vraiment donné beaucoup de courage aux jeunes. Nous sommes en train de voir que c'est la santé qui est prioritaire. Imaginez, j'ai ma femme, j'ai 2 enfants, mais ce n'est pas facile.
Les responsables de la cellule de liaison et des associations féminines concernées par cette promesse ont refusé de faire des commentaires. André Kodomadjingar Ndjamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Ce 5 août marquait la date anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. 60 ans que l'ancienne Haute-Volta a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Si beaucoup de Burkinabés pensent que cette indépendance est effective, d'autres estiment qu'il y a encore de nombreux défis à relever pour parler d'une véritable indépendance du pays des hommes intègres. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Les Burkinabés célèbrent aujourd'hui, 5 août, leur accession à l'indépendance. 60 ans que le pays a décidé de se défaire du joug colonial et de prendre en main son destin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains citoyens veulent marquer une halte pour fêter cette autonomie nationale. Émilienne Kabore, une citoyenne vivant à Ouagadougou.
60 ans d'indépendance, ça se fête. Il faut faire un arrêt pour analyser les choses, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, les Burkinabés ont compris que ce qui était dit depuis 1960, les Burkinabés ont compris qu'il faut consommer Burkinabé. Et aujourd'hui, tout le monde porte le pain face au Dafani, c'est un bel exemple.
Diédoné Ouédra Ouagadougou, par contre, estime que le pays n'a acquis l'indépendance qu'en 1983 avec l'avènement de la révolution.
Pour moi personnellement, l'indépendance réelle du Burkina Faso commence en 1983, où il y a eu changement de régime, il y a eu l'avènement de la révolution qui nous a donné en fait un sentiment de fierté par rapport à notre pays avec ce changement de nom, avec ce changement de régime et un changement en fait de la gouvernance.
Tout compte fait, Edouard Ouédraogo pense que 60 ans après, le Burkina a connu une évolution infrastructurelle intéressante.
Moi qui ai connu un Ouagadougou qui était totalement en banco, parce qu'en 1960, les bâtiments définitifs, on les comptait sur le bout des doigts. Je peux les énumérer rapidement, le palais de justice, le palais de la présidence, le ministère des finances, là. Et puis l'hôpital de Yaoundé qu'on était en train de construire, il n'y avait que ça. Et je vois aujourd'hui ce qu'est Ouagadougou. Moi, je peux dire que relativement, quand même, on a avancé.
Zongo Alain n'est pas de cet avis.
Aujourd'hui, vraiment, c'est avec amertume. Il faut reconnaître que la fièvre et la joie qui ont suivi la déclaration d'indépendance ont donné aujourd'hui vraiment à un désenchantement. Beaucoup de gens sont vraiment désillusionnés parce que 60 ans après, quand vous regardez la plupart des États africains, nous sommes toujours à un stade où vraiment on ne peut pas dire que nous avons progressé à la hauteur de nos attentes.
La question que l'on peut se poser aujourd'hui est de savoir comment sortir de cette indépendance virtuelle ou du moins de façade.
Il faut complètement repenser le développement de nos États.
Paul Miki Rwamba.
Et les réorienter vers des systèmes beaucoup plus endogènes. Parce que nous avons essayé le système démocratique suivant le modèle occidental qui malheureusement a montré ses limites dans la gouvernance en Afrique. Nous avions meilleure gouvernance, meilleur système politique avant l'arrivée des colons à travers justement la chefferie traditionnelle ou tout.
Indépendant ou pas, le Burkina a d'autres défis plus importants à relever aujourd'hui. La question sécuritaire passe comme une urgence. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Parmi les secteurs sérieusement affectés par la pandémie de COVID-19, on peut citer celui de la restauration. C'est le constat fait par notre correspondante à Lomé après avoir fait le tour de quelques restaurants. Pendant que les uns sont fermés, d'autres résistent avec optimisme. L'impact de la pandémie de COVID-19 sur les restaurants à Lomé, un reportage de Kay Lawson.
L'assouplissement des mesures restrictives ne semble guère avoir d'effet sur le secteur de la restauration à Lomé. Dans la capitale togolaise, les restaurants sont dans le rouge. Depuis le 9 juin, date à laquelle le gouvernement togolais a levé le couvre-feu, les clients se font rares et parfois inexistants. C'est le cas ce samedi au restaurant Café Loft. Jusqu'à 22h, aucun client en vue. C'est dans son costume trois pièces sur mesure que le gérant Johnny Dosavi nous accueille.
Pour refaire le bébé, on travaille à l'attente, mais les clients ne sont pas encore habitués à ressentir l'histoire. Et puis la situation économique ne s'arrange pas non plus. Comme vous pouvez le voir, on est samedi et le restaurant est vide. Pas de clients. Nous sommes toujours autour de l'électricité, de la salle climatisée et tout. Enfin, il y a des jours où certaines personnes viennent déjeuner, mais les samedis, on ne travaille que le soir. Et ce soir, comme vous voyez, on est là, il y a personne qui vient.
Les mesures restrictives imposées pour contenir la propagation du coronavirus ont engendré de manque à gagner considérable au métier de la bouche. Raimi Ramanou, responsable du restaurant Lounge Cloud 9.
À partir de mars, on a connu pratiquement 80% de baisse de notre chiffre d'affaires. D'une part, vous savez, il y a une grande psychose qui a régné et qui continue d'ailleurs. Comme le repas devait être préparé par de tierces personnes, eh bien, tout le monde faisait attention. D'autre part, les horaires de travail ont été réaménagés. Et donc, les gens avaient le temps de préparer une gamelle depuis la maison et venir manger pendant la petite heure de pause. Et naturellement, les gens ne fréquentaient plus les restaurants. Il y a même quelques sociétés avec lesquelles on avait des contrats d'entreprise pour la livraison de repas qui ont suspendu.
Cette baisse drastique du chiffre d'affaires a contraint certains restaurants à mettre la clé sous la porte. Notre gérant adepte de l'élégance a tout le temps la tête dans les chiffres, comme il a confié au micro de VOA Afrique, Johnny Dosavi.
Ça cause un énorme vide. Mais on essaye tant bien que mal, là, de s'éloigner en déficit. Parce que c'est moi-même qui fais les comptes. Mais il n'y a pas de problème, heureusement. Mais ça arrange entre tout le monde, tous quand même. Ça paye à la fin du mois. Mais on a été obligé de réduire l'effectif à un moment.
Entre-temps, des services de l'État se sont rapprochés de ces établissements de restauration pour voir dans quelle mesure les accompagner afin d'éviter la faillite. En attendant cet accompagnement, c'est avec optimisme que Raimi Ramanou de Cloud9 entrevoit l'avenir.
Si la pandémie durait jusqu'à fin d'année 2020, je ne crois pas que les incidents négatifs vont continuer dans la même progression parce que d'une part, l'homme arrive rapidement à s'adapter et donc des gens vont arriver à retrouver de nouvelles habitudes. D'autre part, nous voudrions bien, dans une démarche stratégique, créer de nouvelles attractions, créer de nouveaux services alliés au service repas pour que nous tirions notre épingle du jeu.
Dans tous les restaurants visités, l'accent est mis sur les gestes barrières pour attirer les clients, mais peine perdue. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Mandia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le COVID-19 et l'adaptation au numérique. Alors que beaucoup de secteurs souffrent énormément des restrictions imposées un peu partout pour essayer de contenir la propagation du nouveau coronavirus, les plateformes digitales enregistrent un grand boom. Du commerce électronique au télétravail, le numérique est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien des populations. Quelles sont les opportunités et les défis d'un monde de plus en plus digitalisé? Rendez-vous jeudi 6 août à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAafrique.com.
Au Nigeria, des tribunaux mobiles sont mis en place pour faire respecter les mesures sanitaires contre le COVID-19 à Abuja et dans les 36 États de la Fédération. Les contrevenants sont arrêtés par une petite unité chargée de faire respecter les mesures comme le port du masque et la distanciation sociale, particulièrement dans les transports. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Dans ces grands quartiers populaires de Nyanya, près d'Abuja, la capitale, se trouve un des tribunaux mobiles établis par les autorités pour faire respecter les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une équipe d'agents de sécurité et de magistrats s'occupe tous les jours ici depuis le mois de mars de faire respecter les décisions du gouvernement. Yamoussa Saïd Moustapha est l'un des juges assignés à ce tribunal.
Aujourd'hui, nous avons jugé 25 personnes pour violation des mesures sanitaires. Elles n'ont pas respecté la distanciation physique. Elles ont surchargé leur véhicule. Elles ont pris plus de passagers que prévu.
Le tribunal mobile de Nyanya effectue plus de 20 arrestations par jour depuis le début de ses opérations. Les témoignages de deux chauffeurs de taxi qui ont été arrêtés et punis après avoir violé les règles de circulation en cette période de COVID-19.
Je revenais de Nyanya, j'ai pris trois passagers derrière et un devant. Donc ils m'ont arrêté pour me dire que mon taxi est surchargé. Je dois effectuer des travaux communautaires comme punition.
Je dois payer 4000 naira comme amende, mais j'ai demandé pardon avec 3000. Je n'ai pas d'argent sur moi. Nous essayons juste de tourner un peu pour trouver de quoi manger, mais ils disent non.
Les tribunaux mobiles ne sont pas prévus dans la constitution du Nigeria, mais leur mise en place est bien légale, selon l'avocat Owo Otemu du barreau nigérian.
Même s'ils ne sont pas créés par la Constitution, c'est statutaire et constitutionnel, parce que la Constitution donne le pouvoir au Parlement de voter les lois. Les tribunaux mobiles sont créés par une loi votée par le Parlement. Donc à cause de ça, ils sont légalement constitués.
Selon les observateurs, ces tribunaux mobiles ont contribué durant les 5 derniers mois à sensibiliser une grande partie de la population à respecter les mesures sanitaires pour lutter contre le COVID-19. Plusieurs centaines de contrevenants ont été arrêtés à travers le pays. Certains ont payé des demandes avant d'être libérés, d'autres ont été soumis à des travaux communautaires pour quelques jours et parfois quelques heures. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.